Bien, alors nous avons essayé de parler de. Effectivement, on a pu voir qu'il y a une, ce qu'on peut appeler une crispation identitaire dans les pays européens, de la population immigrée en partie, aussi en particulièrement la population arabe ou d'origine maghrébine. Dans les pays d'origine, la situation est très très dure. Et Caroline nous a parlé lors de cette réunion de la situation en Algérie aujourd'hui, de ce que vivent les femmes, de comment est-ce qu'elles ont essayé de s'organiser, où en est la situation aujourd'hui pour les femmes en Algérie.
Bon, voilà, alors pour les associations de femmes, ça fait à peu près 2 ans que le mouvement des femmes est en nette, pas extinction, mais disons, il s'éteint de plus en plus du fait du couvre-feu d'abord, bon, qui a lieu depuis 2 ans, ce qui fait que comme les réunions étaient le soir en général, puisque la plupart des femmes qui sont des militantes des associations travaillent, ça restreignait énormément les possibilités de se voir. Ensuite, du fait que les femmes ont commencé à être menacées, les présidentes d'associations, les femmes des bureaux qui étaient un peu connues, ont commencé à être menacées individuellement de mort, ce qui a fait qu'elles ont commencé à devoir prendre beaucoup plus de précautions. Et aussi du fait que depuis, en tous les cas, au moins 1 an, les militantes des associations, qui sont une population quand même relativement particulière, puisqu'il s'agit souvent de femmes jeunes qui vivent seules, qui ont fait le choix de vivre seules, ou qui sont divorcées, ou qui ont une nette position d'indépendance et d'autonomie par rapport à la société, sont de plus en plus ciblées et pouvaient de moins en moins vivre en Algérie. Donc elles se sont repliées à l'étranger en attendant un petit peu de voir ce qui se passait. Elles existent, elles font toujours un soutien d'ailleurs au mouvement qui est en Algérie, mais elles ne sont plus en Algérie. Donc voilà pour ce qui est pour le mouvement lui-même. Ensuite, de ce qui est pour la situation des femmes elles-mêmes, en fait, les femmes n'étaient pas ciblées jusqu'à l'automne 93. Elles étaient, bon, il est arrivé pas mal de choses, entre autres, bon, on a parlé de viol. On a parlé de femmes menacées, des femmes ont été tuées avec leur mari, mais finalement, apparemment, bon, par exemple pour ce qui est des viols, à part la femme d'un imam qui en a parlé à la télévision, qui a dit qu'elle avait été violée par un groupe d'intégristes que son mari avait logé et à qui il avait et qu'ils avaient nourri, etc. Et finalement, au bout d'un moment, elle se rebelle. Enfin, c'est quand même une histoire assez étonnante finalement. On le sait de sources informelles, on le sait un peu de seconde main, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Alors, par contre, depuis l'automne 93, les femmes sont apparemment ciblées vraiment en tant que femmes. Jusqu'à présent, elles étaient très menacées, par contre. Ça fait des années que les femmes sont menacées pour mille raisons. Celles qui conduisent, celles qui portent pas le hijab, celles qui travaillent, celles qui sont militantes, toutes les raisons sont bonnes. Mais maintenant, elles sont. Il y a de plus en plus d'assassinats de femmes. Alors, ça a commencé par des cartomanciennes. Bon, ce qui allait parce qu'elles vont contre la religion. Ensuite, il y a eu des coiffeuses, on dit que c'est pour du racket. Il y a eu ensuite pas mal d'autres, par exemple des directrices d'école récemment. Alors elles, ça peut être parce qu'elles font partie, ce sont des agents de l'État, parce que les gens sont aussi tués pour ça, mais ça peut être aussi parce qu'elles portaient pas le hijab, mais une d'entre elles portait le hijab, ça peut être aussi parce que, même si elles portaient le hijab, elles avaient combattu quand même les intégristes à l'intérieur de son école. Enfin, il y a beaucoup de raisons possibles. Il y a eu des femmes de ménage aussi, sans doute elles parce que, les unes parce qu'elles obtempéraient pas à l'ordre d'arrêter de travailler, d'autres parce qu'elles n'auraient pas, elles auraient refusé de venir nourrir les maquisards. Mais ça, ce sont des informations un peu qu'on finit comme ça par glaner, qu'on glane à droite à gauche. Et on n'a pas, d'abord la morte ne pourra jamais nous dire pourquoi elle a été tuée, et même probablement elle ne le sait-elle pas elle-même. Bon, dernièrement, il y a encore une jeune fille qui s'est fait tuer. On dit dans la presse que apparemment la fille qui était à côté d'elle était en hijab, elle ne l'était pas, donc peut-être que c'était à cause du hijab, mais qui dit que c'était pas un amoureux transi, parce que il faut dire qu'on est aussi dans un système de folie, de violence, où des hommes qui ont à peine 20 ans ont des armes en main, et puis finalement font vraiment la loi comme ils veulent dans certains quartiers, et la loi en général pour eux c'est d'abord les femmes, parce que c'est le grand lieu de leur frustration.
Et ces crimes ne sont pas revendiqués en général?
Non, les crimes ne sont pas revendiqués. Alors la plupart des crimes ne sont pas revendiqués, à part des crimes de grands intellectuels au bout d'un certain temps. On n'est même pas sûr que ceux qui les revendiquent ne les revendiquent pas pour se faire de la pub, mais en fait ce n'était pas forcément eux. C'est très 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 flou la situation algérienne actuelle. Mais sinon, par contre, ils sont revendiqués d'une autre façon, puisque tout le mouvement intégriste placarde des menaces à droite à gauche. Bon, entre autres, dernièrement, il y a, on m'a dit cette semaine qu'il y avait un placard dans une des plus grandes mosquées d'Alger disant que toute fille au-dessus de 14 ans sans hijab serait tuée.
Alors, face à cette violence incroyable, quelles sont les manières de résister, et des femmes individuellement, et du mouvement organisé en Algérie?
Alors, tout d'abord, et du mouvement organisé pour ce qu'il reste, il continue d'essayer quand même d'avoir une certaine résistance, entre autres les femmes qui restent, les associations qui arrivent à tenir un petit peu, à se rencontrer un petit peu, mais enfin, il s'agit maintenant de poignées de femmes qui se rencontrent au sein d'une association, ont organisé des rassemblements. Bon, alors, ce qui sont assez controversés, parce que certaines du mouvement trouvent que c'est vain au point où en sont les choses, d'autres pensent que c'est quand même un endroit de rassemblement, qui sont un rassemblement, par exemple, devant la présidence, comme ça s'est passé fin octobre 93, qui était un rassemblement contre le terrorisme. Enfin, c'est un petit peu des revendications. Donc voilà, et ensuite il y a un second rassemblement qui a eu lieu récemment, puisque c'était le 27 janvier, qui était là qui était sous le mot d'ordre femmes levez-vous, nos décideurs sont devenus fous, parce que les décideurs amorcent assez nettement un accord entre pouvoir et islamisme et islamistes.
En effet, on a l'impression, du peu qu'on entende et qu'on apprenne, que les femmes sont prises en otage entre deux pouvoirs patriarcaux.
C'est exactement ça, et c'est un peu le piège dans lequel le mouvement des femmes essaye de ne pas tomber et tombe parfois. C'est qu'en fait, l'État algérien n'a jamais été pour les femmes, au contraire. Il a eu des lois discriminatoires très importantes contre lesquelles les femmes se sont levées, ont essayé de bouger le plus de choses possible. Mais même au moment de la plus grande ouverture, finalement, ils remettaient toujours à demain la remise en question du code de la famille, parce que ça arrangeait bien tous les hommes de la société. Alors donc, elles ont ce pouvoir-là d'un côté, qui est en plus un pouvoir militaire, et tout le monde sait qu'un pouvoir militaire ne donne pas beaucoup d'espoir dans quelque ouverture. Et de l'autre côté, les intégristes, en fait, c'est vraiment entre la lèpre et le choléra qu'elles ont à choisir. Bon, jusqu'à présent, le mouvement des femmes, sans le soutenir, ne remettait pas trop en question l'État, parce que c'était encore un moment où elles avaient la possibilité d'agir. Tandis que, sachant que sous les intégristes, elles n'auraient même plus du tout de possibilité d'agir. Tandis qu'avec, elles avaient quelques espaces où elles pouvaient encore et se rassembler et avoir des revendications.
Alors, au niveau de la solidarité internationale, les femmes algériennes, en tout cas, demandent qu'elles puissent bénéficier du droit d'asile si elles essayent d'aller ailleurs.
Oui, en fait, d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs années que ça se discute en Algérie, mais là, il semble que ce soit de plus en plus urgent. Il faudrait arriver à faire une pression internationale, et donc pour ça, il faudrait que tous les mouvements de femmes s'unissent là-dessus, si possible, pour que, à l'intérieur des pays qui peuvent recevoir les réfugiés, qu'il y ait la possibilité de droit d'asile pour discrimination sexuelle. Parce que la femme, en tant que femme, ne peut pas vivre dans son pays. Bon, c'est assez compliqué parce que les États ne refusent en général. Enfin, comme l'État n'est pas l'attaquant, alors qu'en fait il l'est aussi, du fait du code de la famille, mais enfin il n'est pas encore dit comme l'attaquant des femmes, les pays ne refusent cette idée de droit d'asile. Mais c'est sûrement une idée à réfléchir très très profondément, puisque ça a existé au Canada pour un cas, et c'est un cas que les Canadiens ont voulu étouffer. Parce qu'ils ont fini par accepter sous la pression du mouvement des femmes canadiens, mais en ayant tellement peur que beaucoup d'autres femmes arrivent, ils ont demandé à ce que ça reste un cas quasiment secret. Mais on en parle quand même, c'est une Saoudienne, et voilà, de 23 ans, qui avait demandé l'asile politique en tant que femme.
C'est un moyen que les femmes choisissent en Algérie. Elles fuient et elles essayent de trouver asile ailleurs.
Oui, c'est vrai. Malheureusement, on est obligé de parler de fuite, quoique c'est assez désagréable pour les femmes elles-mêmes, parce que c'est quand même un sentiment d'échec énorme que de fuir le lieu qu'on aime. Mais il y a de plus en plus de femmes qui sont en train de chercher la sortie en Algérie, et peu ont les moyens. Bon, il y a quand même un certain nombre d'intellectuels qui ont un peu les moyens, parce qu'elles avaient auparavant des réseaux internationaux dans les colloques, les trucs comme ça, ce qui fait qu'elles connaissaient pas mal de monde. Mais sinon, toutes les jeunes, et qui sont quand même, il faut penser que la population, c'est quand même 75% de la population à moins de 30 ans, donc c'était énorme. Et ben, toutes ces jeunes-là qui sont ni diplômées ni rien du tout, mais qui veulent vivre, et ben, à celles-là, il faut qu'on arrive à leur trouver des réseaux pour s'échapper de l'enfer.
Alors, hier, pour le 8 mars, plusieurs centaines de femmes se sont réunies à Alger pour crier leur opposition. Entre autres, elles s'opposent au dialogue qui semble être mis en place entre le pouvoir et les islamistes. Donc, il y a eu un rassemblement du 8 mars à Alger des femmes. Sakina, nous en venons bientôt au terme de cette émission. Je crois que vous avez un projet, le groupe des femmes arabes à Genève, c'est de monter, de mettre sur pied une publication.
Une publication, plutôt un bulletin bimensuel arabe-français qui permettrait premièrement d'informer de tout ce qui se passe au niveau du monde arabe dans nos pays d'origine, par exemple quand une nouvelle loi vient d'être pressentie ou autre, ou bien ce qui se passe ici au sein de la communauté. Et surtout, surtout, notre but, c'est de faire, de donner la possibilité qu'il y ait un dialogue afin que les femmes citoyennes suisses d'origine arabe, donc surtout beaucoup d'ouvrières, de la classe ouvrière, puissent participer à la vie de la cité. Ça, c'est très important, hein, qu'elles sachent qu'elles sont citoyennes suisses, qu'elles ont des droits, mais aussi qu'elles ont des devoirs. Et pour renforcer donc le mouvement des femmes et le mouvement de la tolérance et de la démocratie.
Merci beaucoup, Sakina. Je vous rappelle que notre numéro de téléphone, c'est le 50 40 51 41 023 depuis la Suisse et que nous avons une adresse, 7 boulevard Karl Vogt, 1205, Genève.
Voilà, c'est la fin de la rediffusion de notre discussion avec Sakina Sherad à propos des femmes du Maghreb. Et juste avant la fin de cette émission d'aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous faire entendre un message qu'avait donné le 8 mars dernier Ruth Dreyfus à la Maison des Jeunes de Saint-Gervais et qui a toute son importance aujourd'hui alors que des femmes manifestent en ce moment à Berne et dont vous entendrez un écho tout à l'heure au téléphone avec Viviane Gönick et Isabelle, qui vous raconteront ce qui se passe sur la place de Berne. Mais ce qu'elle disait, Ruth Dreyfus, ce jour du 8 mars, avait beaucoup d'importance pour rappeler combien elle a besoin de la présence des femmes derrière elle lorsqu'elle essaye de soutenir un propos qui les concerne. Avant cela, eh bien, je vous rappelle, je vous dis quel sera le sujet de l'émission la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous recevrons Alain Meunier et Anne Grossenbacher, qui sont les deux artisans d'une exposition que vous pouvez découvrir en ce moment au Musée d'ethnographie de Genève, 65 boulevard Karl Vogt, et qui a pour titre « L'Amazonie d'une baronne russe, des Andes à l'Atlantique ». Cela se passait en 1903 et effectivement, cette baronne, eh bien, se promenait avec son mari à la fin de leur voyage de noces. Ils étaient sur les sommets des Andes et ils sont contraints, par la peste bubonique qui règne à Lima, de traverser l'Amazonie pour rejoindre le paquebot qui les ramènera en Europe. À dos de cheval et de mule, puis au fond d'une pirogue, ils doivent affronter tous les dangers, les Indiens, les eaux, et enfin retrouver le luxe de la civilisation. En cours de route, rien pourtant n'a pu décourager la baronne de prendre et des photos et d'écrire son journal de voyage. Et c'est sa vision de l'Amazonie qui ressurgit maintenant dans cette exposition à nos yeux, dans cette lointaine année 1903. Exposition qu'a conçue Alain Meunier et qu'a mise en espace Anne Grossenbacher. Ils seront avec nous la semaine prochaine. Alors, je vous le disais, tout de suite maintenant, quelques phrases de Ruth Dreyfus qui rappelait combien elle doit et quel lien elle a avec les femmes qui, selon elle, l'ont élue. Et peut-être que ceci nous donnera l'énergie de comprendre qu'il faut être derrière elle maintenant et la pousser en avant par rapport à l'AVS. Tout à l'heure, à 19h, un téléphone de nos amis Viviane Gönick et Isabelle qui sont à Berne pour nous donner des nouvelles de cette manifestation. Tout de suite, Ruth Dreyfus.
C'est-à-dire la Journée internationale des femmes. Je le dis parce que c'est une date importante, parce que c'est une date qui concerne tout le monde, les femmes comme les hommes, parce que c'est une date qui concerne le mouvement d'émancipation ici, dans les pays développés, mais également dans les pays du tiers-monde, et que c'est important, je crois, puisque nous sommes réunis aujourd'hui, notamment à cause d'une exposition sur le mouvement des femmes ici en Suisse, que de penser à ce mouvement tel qu'il se vit partout. Le printemps n'est pas seulement helvétique. Je suis bien sûr aussi venue d'abord pour l'exposition de Monique, parce que c'est un projet que j'ai suivi, c'est un projet qui me paraît important pour marquer le rôle des femmes et de certains hommes aussi de ce pays, le sentiment qu'il faut que les choses changent et que pour que les choses changent, il faut y mettre du sien, il faut se lever, il faut surtout apprendre à parler, il faut apprendre à exprimer des choses, pas seulement oralement, mais aussi par l'image, par les symboles. Il faut exprimer ses besoins et ce n'est que lorsque l'on aura clairement dit ce que l'on veut que l'on peut le réaliser. Et je crois que ce qu'il y a sur ces photos, c'est le souvenir de milliers de gens qui ont voulu exprimer quelque chose. Et c'est l'expression même aussi d'une photographe qui veut aussi que les choses changent en Suisse. Ces photos, j'espère qu'elles poursuivront leur chemin, qu'elles figureront dans le beau petit livre qui est sorti, qu'elles continueront aussi par les affiches et les reproductions à hanter nos jours, parce que c'est des photos qui, en tout cas pour moi, sont aussi des avertissements. Pour moi, cela me dit clairement d'où je viens, parce que je suis née de cette vague. Cette vague existait, quelqu'un l'a fait naître, quelqu'un l'a incarné l'espoir à un moment donné, c'est Christiane Brunner. Et cette vague s'est gonflée, a exprimé un besoin, et ce besoin a été finalement imposé, si vous voulez, au poids des choses, imposé à la volonté majoritaire à un moment donné du Parlement, a été imposée tout simplement par son évidence, par l'évidence de sa justesse, l'évidence de sa légitimité. C'est un avertissement donc, je viens de là et je n'ai pas le droit de l'oublier, mais c'est aussi un avertissement parce qu'on sent à quel point c'est difficile de bouger sur ces photos. On sent le mélange de souffrance, d'espoir, de soulagement, de fatigue sur les visages, en particulier de la manifestation du 3 et du 10 mars de l'année passée. Et puis c'est aussi des avertissements pour moi, ces photos, parce qu'elles montrent aussi les pièges du pouvoir. Pas seulement la volonté de changer, mais aussi la pesanteur justement des choses, de ces jours-là. Elle montre les grilles, elle montre la distance entre les manifestants et le palais fédéral. Et puis pour moi, personnellement, elle montre des dangers terribles. Et Monique sait que je vais faire allusion à une photo où l'officialité a l'air déjà de m'avoir dévorée toute crue et de m'avoir déjà placée sur une espèce de socle très loin de ceux qui étaient venus fêter le 19 mars cette élection, cette rentrée de Genève dans la société suisse si longtemps attendue, si longtemps espérée, enfin incarnée justement par la volonté de Christiane Brunner et finalement par cette bataille qui a eu lieu le 10 mars. Alors c'est la fameuse photo où on voit, c'est un jour de fête, il y a une tente, on voit qu'on s'est donné de la peine, il y a des musiciens, une fanfare qui joue. Et puis, il y a une distance incommensurable derrière les musiciens. Il y a des politiciennes et des politiciens qui ont l'air d'être très, très loin des gens qui sont venus. Alors, cette photo-là, elle est terrible. Chaque fois que j'ouvre le petit bouquin, je me dis, j'espère qu'elle ne va pas me sauter aux yeux. Et bien sûr qu'elle me saute immédiatement aux yeux comme un avertissement. J'espère le garder, cet avertissement. Et je remercie Monique à la fois de sa sympathie, de sa vigilance, de sa sympathie pour tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce mouvement et qui continuent à le faire. Je remercie Monique aussi, et je l'ai appris seulement en feuilletant son livre, que pour elle aussi, cela a été un déclic. C'est-à-dire que pour elle aussi, ce mouvement l'a mise en mouvement. Bien sûr qu'il y avait longtemps déjà qu'elle marchait, mais là, elle a rejoint quelque chose qui, je crois, a changé aussi un tout petit peu sa vie.
Alors voilà une partie de l'intervention de Ruth Dreyfus hier soir à la maison de Saint-Gervais à Genève. Elle a ensuite évoqué les photos d'Olivia Hösler sur les femmes en Palestine, femmes à la fois israéliennes et femmes palestiniennes. Et elle constatait que, en confrontant ce qui se passe sur la terre de Palestine et en voyant ce qui se passe en Suisse, eh bien, ces photos nous montrent à quel point nous devons, bien sûr, dit-elle, nous sentir proches de cette terre où il s'agit, bien sûr, de vie et de mort, pas comme en Suisse, où c'est plutôt notre immobilisme, mais qui frappe. Mais il faut aussi être plein et pleine de courage pour nous battre ici, parce qu'ici, nous n'avons affaire qu'à notre propre pesanteur, faisait-elle remarquer. Et comme quelqu'un l'a écrit dans le livre de Monique Jacquot, le printemps des femmes crée l'espoir d'autres printemps. Voilà comment Dreyfus a terminé son intervention hier.
Alors, je ne sais pas à l'heure qu'il est, qu'est-ce qui se passe sur la place de Berne, mais dans quelques instants, vous aurez des nouvelles de ce qui se passe à Berne, parce que, puisque Viviane téléphonera à Marjolaine, dans le cadre de l'émission des coups de cœur de Marjolaine, à 19h. Donc aujourd'hui, pas d'informel de Radio Pleine Lune, de 18h30 à 19h, mais tout de suite, rendez-vous spécial à 19h, téléphone Viviane, en direct de Berne, à Marjolaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous retrouvons Alain Meunier et Anne Grossenbacher pour parler de l'exposition du musée d'ethnographie qui, en ce moment, est au musée, l'Amazonie d'une baronne russe, cette baronne qui a voyagé des Andes à l'Atlantique, histoire de finir dans l'aventure un voyage de noces commencé en 1900. Tout ceci se passait en 1903. Et juste pour vous donner un tout petit extrait, une toute petite saveur, elle écrivait ceci. Elle se trouve chez les Indiens Ashaninka, dans la Pampa Camona. Alors dès leur arrivée, ces trois chunchos se sont installés sous un hangar et ont commencé rapidement à cuisiner sans s'occuper de nous. La femme repeint sa figure de raies rouges vifs et déballe son poupon aux yeux noirs comme des charbons et dont la cornée a des reflets très bleutés. Toute la journée, il reste au tambo, celui qui probablement est le mari, fait son apparition quelque temps après eux. L'hôtelier lui donne un fusil et nous accompagne à la chasse, poussant des cris pour attirer les oiseaux et les imitant à merveille. On s'étonne vraiment que ces hommes soient des créatures humaine. La journal de la baronne. À la semaine prochaine. Changer la vie.
Encore un dernier renseignement en lien avec ce que nous avons dit aujourd'hui dans notre émission. Si vous désirez avoir des informations plus précises sur le bulletin Calimat dont vous parlait tout à l'heure Sakina Sherad, bulletin qui est le bulletin de l'Association des femmes du monde arabe, vous pouvez écrire donc Association femmes du monde arabe, pardon, case postale 19 1213 Aunay.
La semaine prochaine, nous nous retrouverons en direct avec toute l'équipe qui a participé à la création du spectacle Lisley. Lisley l'a créé ce soir, mercredi 11 janvier, au Théâtre Saint-Gervais à Genève. Il se joue jusqu'au dimanche 29 janvier, le jeudi à 19h, le dimanche à 17h. Lisley, eh bien, c'est l'histoire d'une femme qui est perdue sur une île. On ne sait pas très bien comment elle y est arrivée, comment elle en repartira. Elle est debout, droite, parée, face à la mer, figure de proue d'une île vaisseau à jamais ancrée, dressée, parée, face à la mer, attendant que l'abordent d'innombrables équipages, d'innombrables navires, flots de marins par vagues roulées sur elle, flux et reflux, comme sur une plage, monte et descend l'eau. C'est un texte de Jacques Probst, avec une idée fantastique de la metteur en scène Liliane Tondelier, qui est de créer ce texte comme un opéra miniature, c'est-à-dire où le texte et la musique se partagent le premier rôle. La musique, c'est l'œuvre de Jacques Demierre, interprétée par la cantatrice Magali Schwartz. Le texte est dit par Emmanuel Stoll. Nous retrouverons toute cette équipe en direct la semaine prochaine dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8 à 17h. Et j'attire votre attention sur le fait que dimanche 15 janvier à 19h, après le spectacle, Jacques Probst lira sa toute dernière pièce, La route de Boston. I'm